Voilà, justement, nouvelle formule donc pour Science et Vie dans les kiosques depuis le 23 février. Bonne chance pour cette nouvelle aventure. Et la fusion nucléaire, c'est donc le sujet dont nous parlons avec vous cet après-midi. Alors, Guy Laval, Sébastien Balibar, s'agit-il d'une arlésienne scientifique tellement compliquée à mettre au point qu'on ne la voit jamais arriver? C'est un peu la question qu'on peut se poser. À Cadarache, donc, effectivement, la construction a commencé avec ITER, qui est présenté comme le programme scientifique le plus ambitieux jamais connu, avec une très longue attente. Alors, expliquez-nous pour commencer ce qui se cache derrière ce que certains présente donc comme un rêve prodigieux à accomplir avec la maîtrise de cette énergie de la fusion nucléaire. Et quelle est la différence? On va peut-être commencer par ça d'ailleurs, Guy Laval, entre la fusion et la fission nucléaire, parce qu'on connaît les deux termes sans savoir forcément très bien comment les différencier.
Alors, nous savons tous que nous sommes faits d'atomes. Ces atomes sont constitués d'électrons et de noyaux. Ce noyau est une petite partie de l'atome, contient toute la masse. Ces noyaux sont eux-mêmes faits de nucléons, deux sortes de nucléons, les neutrons et les protons. La fission, c'est la réaction nucléaire qui se produit lorsque un neutron libre, qui n'est pas dans un noyau, rencontre un noyau lourd. Un noyau lourd, c'est un noyau dans lequel il y a beaucoup de neutrons et de protons. Lorsque ce neutron pénètre dans ce noyau lourd, le noyau se casse en deux, comme une goutte d'eau qui est trop lourde, hein, qui brusquement se casse en deux gouttes, en donnant deux noyaux qu'on appellera les produits de fission et qui sont des noyaux de masse moyenne. Ces noyaux récoltent, ces noyaux de masse moyenne récoltent l'énergie libérée dans la réaction. Cette énergie va donc se retrouver sous forme de chaleur. Donc on a une production directe à partir d'une réaction nucléaire de chaleur qu'on va pouvoir récupérer et envoyer dans des échangeurs de chaleur qui vont amener donc l'énergie à des turbines électriques qui produiront l'électricité. Ça, c'est la fission.
Et ça, ça existe, hein, puisqu'on l'utilise dans les centrales nucléaires.
Oui, 78% de la production électrique française est faite à partir de ces réactions de fission. Ça marche très très bien.
Sauf que ça a une très problème. Mauvaise réputation, évidemment, avec nombre de problèmes. À tort, hein, pour vous, Sébastien Malibar. Alors
absolument.
Pourquoi? On dit effectivement que c'est sale, c'est dangereux avec le problème du retraitement des déchets. Pourquoi à tort alors?
Si vous me permettez de taquiner un peu mon voisin
mais
de
taquiner,
Sensivi,
on est là pour ça.
J'ai remarqué que même eux considéraient que c'était sale, dangereux, tout ça. Je crois que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est une rumeur qui, comme beaucoup de rumeurs, est fausse. Depuis l'époque de Tchernobyl, la technologie des réacteurs à fission, donc comme l'a très bien dit Guy Laval, a énormément évolué. Et en particulier, ça n'explose pas comme on a l'air de le prétendre par endroit. Ça ne s'emballe pas non plus, comme on le dit aussi.
Non, mais c'est sale par contre, parce qu'on ne sait pas quoi faire des déchets. Ça,
c'est pas vrai.
C'est quand même le gros problème de la fission nucléaire.
À mon avis, le problème principal, effectivement, de la fission, c'est-à-dire des réacteurs nucléaires habituels, c'est effectivement les déchets. Simplement, il est résolu par la quatrième génération de centrales nucléaires, qui, d'ailleurs...
Elles sont arrivées déjà ou pas, celles-là?
Eh bien, on a eu Superphénix, qui malheureusement a été fermé par une décision politique que je regrette infiniment, et qui utilise tous ces déchets en les transformant en combustible pour produire beaucoup plus d'énergie que les centrales habituelles. Et c'est ce qui rend le nucléaire de fission, classique, disons, à la fois durable et propre.
Alors, c'est ce qu'on nous vend, Hervé Poirier, d'ailleurs. Hein. Quatrième génération, formidable, extrêmement propre. On a résolu le problème quasiment des déchets. Hein. C'est en tout cas ce qu'on essaie de nous faire dire et nous faire croire.
Absolument. Mais nous à Science et Vie, nous ne sommes ni pour la fusion, ni pour la fission. Nous ne sommes pas du tout engagés dans le débat pour ou contre la fission ou la fusion. Nous remarquons juste que la fission... prend un peu le côté sombre de la force. Tout ce qui, elle prend sur ses épaules beaucoup de peur, beaucoup de danger. Alors que la fusion, le sujet dont on parle aujourd'hui, est assez étonnante de luminosité. Ça a été développé dans un cadre pacifique, international. Il n'y a pas de déchets. Les matières premières sont en réserve illimitée.
Alors tout le monde n'est pas d'accord hein, sur la question des déchets justement liés à la fusion. Donc on va en parler tout au long de l'émission. Mais c'est vrai que vous présentez en tout cas la fusion comme étant le pendant lumineux, on dira, de la fission. Alors, Monsieur Laval, pour présenter la fusion maintenant, puisque c'est le sujet qui nous intéresse, et pour bien comprendre comment tout cela fonctionne.
Alors, la fusion, ce sont des réactions nucléaires, comme dans le cas de la fission, donc des réactions entre les noyaux, ces petits morceaux des atomes qui portent la masse. Mais au lieu de les casser en deux, on prend deux noyaux, on les rapproche et on les fait fusionner pour donner un noyau plus gros. Cette réaction ne produit l'énergie que si on fait fusionner des noyaux d'éléments légers, qui contiennent donc peu de neutrons et peu de protons. Ces éléments, ce sont actuellement, dans les laboratoires, des isotopes de l'hydrogène, c'est-à-dire des gaz, qui ont les mêmes propriétés chimiques que l'hydrogène, mais qui sont plus lourds. Et donc, c'est à partir de ces gaz, qui ne sont pas très faciles à trouver, mais qu'on trouve, qu'on espère donc obtenir cette source d'énergie obtenue par fusion des atomes. La différence avec la fission, c'est que la fission, on la fait à la température ordinaire, on empile des briques de matières fissiles comme l'uranium ou le plutonium, et l'énergie se dégage sans qu'on ait besoin d'apporter de l'énergie au système, simplement dans des conditions normales. Dans le cas de la fusion, l'énorme différence avec la fission, c'est que pour que ces réactions se produisent, il faut porter le milieu à une température impressionnante, puisque en degrés, elle se chiffre à 150 millions.
Voilà, c'est 10 fois la température du cœur du Soleil. Hein. Donc on fait encore plus fort, on multiplie par 10 et on arrive à 150 millions de degrés.
Alors la température du Soleil est beaucoup plus basse, mais les réactions de fusion qui se passent dans le Soleil n'ont rien à voir avec les réactions de fusion qu'on va utiliser dans les laboratoires. Ce sont des réactions différentes et c'est une méthode de production d'énergie qui est finalement n'a qu'une parenté assez lointaine.
Sébastien Malibar, si on résume les choses en disant que la fusion, c'est une tentative de mettre le Soleil en boîte, vous êtes d'accord avec cette métaphore qui évidemment simplifie les choses, mais
c'est une métaphore classique. Je crois qu'un jour, j'ai eu le malheur de dire, ou le bonheur peut-être, ça a été repris par Wikipédia. Alors tout le monde sait que j'ai dit ça maintenant. J'ai dit, le problème, c'est qu'on ne sait pas faire la boîte. Et donc, c'est effectivement, à mon avis, le problème principal. Il y en a deux autres qui sont très, très difficiles aussi. Mais le problème principal, c'est que vous vous rendez bien compte que pour contrôler ce qui se passe dans un petit soleil à l'intérieur d'une boîte, il faut avoir une boîte très spéciale. Je crois qu'on ne sait pas très bien la construire.
Avec la question des matériaux qu'on évoquera
avec vous. Alors j'aurais voulu qu'on s'attelle au problème de d'abord savoir comment faire la boîte, avant de mettre un soleil dedans.
Voilà. C'est le problème numéro un, d'ailleurs, aujourd'hui, autour de ce dossier de la fusion, c'est trouver les matériaux suffisamment résistants pour pouvoir résister à des températures.
À mon avis, oui, mais on va écouter ce que dit Guy Laval.
Alors, il y a deux problèmes disjoints. Le premier problème, c'est d'arriver à maintenir un milieu à une température de 150 millions de degrés au voisinage d'une paroi qui est à la température ordinaire. Et dans ITER, c'est pire que ça, puisque les aimants qui vont fabriquer les champs magnétiques nécessaires pour que tout ça marche, les aimants sont des aimants supraconducteurs qui sont à une température de moins de 169 degrés. Mmh. Et à côté, il y a un milieu qui est à une température de 150 millions de degrés. Et donc, le premier problème à résoudre, c'est comment faire pour que ce milieu n'aille pas interagir avec le matériau à basse température et se refroidir, bien entendu. Ce problème, il est en voie de solution. C'est le but d'ITER de montrer que la solution peut être considérée comme utilisable dans des conditions de fonctionnement d'un réacteur. Mais le principe, maintenant, on le connaît. On a eu beaucoup de difficultés pour arriver à l'amener au point où il en est. Mais cette partie du problème, on peut considérer qu'elle est à peu près résolue. Le système qu'on a mis au point, qui met en jeu des champs magnétiques, protège donc les parois les plus proches de ce milieu à 150 millions de degrés et les protège de la chaleur qui peut donc se déposer sur elles par contact avec ce paroi très chaud. Donc ça, on sait le faire. On a les matériaux qui permettent de tenir le coup. Mmh. Ce qui est le deuxième problème qui est plus délicat, qu'on a très peu étudié jusqu'à présent, c'est ce qui se produira dans l'avenir, non pas sur ITER, mais sur les futurs réacteurs fonctionnant en régime permanent, c'est-à-dire pendant des années, et qui vont être obligés d'absorber les neutrons émis par les réactions. Au bout d'un temps très long, donc de plusieurs années, ces neutrons vont petit à petit détruire la structure interne, risquent de détruire en tout cas, la structure interne des matériaux qui permettent qui forment la coque entourant le plasma, entourant donc ce milieu à très haute température. Et il faut trouver un moyen pour que
l'ensemble de la structure ne s'effondre pas. Le moyen le plus simple, c'est évidemment de changer la structure, mais ça coûte très cher et ça handicaperait considérablement la rentabilité économique de la production de cette énergie. Donc, on ne peut pas imaginer qu'on va utiliser des matériaux ordinaires.
Alors, on va en parler avec vous. Sébastien Malibar, on va également évoquer ce texte que vous avez publié avec d'autres physiciens, dont Georges Charpak, pour vous opposer justement à ITER. Il faut bien expliquer aux auditeurs que ITER, c'est une phase expérimentale. C'est une première étape dans ce rêve de créer un jour de l'énergie par le biais de la fusion nucléaire.
C'est peut-être l'occasion pour moi de dire que si la fusion, ça marchait, ce serait effectivement très intéressant. Comme vous l'avez dit au début, mais je vais le répéter autrement, effectivement, la fusion thermonucléaire a un avantage par rapport à la fission, c'est que les déchets ne sont pas les mêmes. Ça produit de la radioactivité quand même, mais ça ne produit pas ces éléments très lourds qui, effectivement, sont embêtants et que j'ai expliqué que la quatrième génération allait les transformer en combustible, donc ce serait résolu quand même. Donc, si ça marchait, la fusion, ce serait quand même très intéressant.
Pourquoi pensez-vous que ça ne va pas marcher, d'ailleurs ?
J'allais évidemment, mon conditionnel voulait dire ce que vous avez très bien compris. Je pense que les problèmes à résoudre sont extrêmement difficiles. Je ne dis pas que ça ne va pas marcher, mais ça me paraît impensable que ça marche dans les délais requis.
Alors, là, certes, il faudrait attendre très longtemps. On est quasiment sur un siècle, là.
Donc, je pense qu'on est sur un siècle, quels que soient les chiffres qu'on peut lire par-ci, par-là.
Mais est-ce que le jeu n'en vaut pas la chandelle, quand même ? Est-ce que cette attente ne mérite pas, quand même, qu'on s'y attelle ? Parce qu'il faut parler des promesses, quand même. C'est quoi la fusion, la promesse de cette recherche ?
Oui.
Alors, qui veut répondre ?
Sébastien, je t'en prie.
Alors, non, Sébastien Malibar.
On se connaît bien, donc... Mais,
alors, admettons qu'un jour,
on arrive à mettre ça au point. Ça dépend, premièrement, du prix de la chandelle, hein, et deuxièmement, de qui paye la chandelle. Bon. Et si, effectivement, avec Jacques Trenet et Georges Charpak, l'été dernier, on a à nouveau, parce que c'est quand même la troisième fois qu'on essaye d'alerter...
Oui, c'est pas la première
publique.
Fois, hein. Le premier texte, il est
2005,
beaucoup plus ancien.
Oui. Ouais. C'est parce que le budget vient de tripler et que non seulement le budget vient de tripler, mais l'Europe, qui contribue à 45% au coût de construction de ITER, a décidé de prendre 450 millions sur les budgets de la recherche publique soutenue par l'Europe. Et donc ça, c'est exactement la catastrophe que nous ne voulions pas, que nous espérions qu'elle n'arriverait pas et qui malheureusement arrive.
C'est-à-dire qu'il y a tout un pan de recherche qui ne se fera pas donc, en raison de l'investissement placé sur ITER.
Je vais essayer d'être plus clair. En principe, ça devait coûter 5 milliards d'euros à construire. Ça a triplé, c'est 15 milliards d'euros. Alors 15 milliards d'euros, c'est beaucoup de zéros, mais c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup ? Eh bien, tout dépend à quoi on le compare. Si on compare 15 milliards d'euros parce que c'est de la recherche très amont par rapport à un problème industriel d'énergie, d'électricité, etc., finalement, c'est pas tellement. Le bénéfice net de la société totale en un an est de 13 milliards d'euros l'année dernière, si je ne me trompe. La BNP a 5 milliards d'euros de bénéfices. Par rapport à des bénéfices ou à des budgets d'investissement en recherche des sociétés industrielles, c'est pas grand-chose.
Alors, Didier, courriel, a l'air assez d'accord avec vous. Il dit « Quelle aberration de construire ITER, hein. On va dépenser 15 milliards, détruire une colline, générer des centaines de tonnes de déchets radioactifs. Tout ça pour une expérience qui, si elle marche, recréera le soleil dans seulement 50 ans au bas mot. Que d'argent et d'énergie perdus alors que nous avons un soleil gratuit. »
Je suis... le soleil gratuit.
Alors, ça fait beaucoup rire Guy Laval.
Oui. Mais je sais ce qu'il veut dire par le soleil gratuit. On va essayer d'y revenir, mais on mélange un peu tout à la fois. Et donc, j'étais en train de dire que, de toute façon, les problèmes techniques à surmonter sont tellement difficiles que je crois que Guy Laval sera d'accord avec moi qu'avant qu'on produise de l'électricité commerciale par des centrales qui marchent à la fusion... il va se passer au moins un siècle.
Alors, je suis d'accord avec
vous,
mais est-ce que...
Le réchauffement climatique, c'est tout de suite. C'est déjà commencé. C'est aujourd'hui qu'il faut remplacer le pétrole, le gaz et le charbon par autre chose.
Alors,
et cette autre chose existe.
Oui, on parle de... Alors, on va voir quelles sont les alternatives. Effectivement, c'est intéressant. On parle avec la fusion d'une énergie sans limite, Guy Laval. Donc, est-ce que ça ne mérite pas un certain investissement ? Explique-nous un petit peu à quoi ça correspond. Les promesses, justement, qui justifient l'engagement financier, les recherches scientifiques autour de la fusion. À quoi on pourrait aboutir si, effectivement, cette source d'énergie existait ?
Alors, cette source d'énergie, en principe, devrait nous permettre... de ne plus être limité dans l'utilisation de l'énergie d'une manière générale, du fait que les ressources en combustible sont abondantes, presque illimitées, et d'autre part, parce qu'il n'y a aucune émission de gaz à effet de serre. Donc on peut également ne pas se contraindre à économiser l'énergie à outrance. Et enfin, troisièmement, parce qu'il n'y a pas de déchets radioactifs très gênants. Il y a des déchets radioactifs qui sont produits, mais des déchets à vie relativement courte qui disparaîtront assez vite et qui ne se stockeront pas indéfiniment dans des réserves qui peuvent être gênantes. Donc c'est ça la promesse de la fusion, c'est la possibilité de construire des usines à fusion partout où on en a besoin, sans souci d'environnement, sans souci de danger de prolifération, puisque c'est une des menaces aussi qui est associée souvent à la fission. Alors maintenant, moi, je n'aime pas beaucoup ces argumentations de comparaison entre la fission et la fusion, parce que je trouve que les deux sont utiles, les deux sont même indispensables, puisque, comme vous l'avez dit, la fusion, elle, ne sera prête au plus tôt que dans la deuxième moitié du XXIe siècle. Et entre-temps, on va avoir besoin de la fission. Donc il faut les deux. Il faut que les deux se succèdent, ou si la fusion marche, elle succédera à la fission. Moi, je crois qu'on ne peut pas se passer de la fusion. En tout cas, on ne peut pas arrêter la fusion aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord avec les arguments qui sont utilisés contre la fusion, en particulier par mes célèbres collègues physiciens. Mais je ne suis pas d'accord sur la conclusion à laquelle ils aboutissent. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de retirer aux générations futures, je dirais presque mes petits-enfants, on ne peut pas leur retirer ce moyen éventuel de produire de l'énergie dans des conditions de sûreté et de tranquillité inégalées jusqu'à présent, parce qu'on n'est pas sûr que la fission soit indéfiniment acceptée par les populations. On sait que la fission contient des ingrédients qui peuvent provoquer des réactions de rejet. C'est déjà arrivé. Donc, laisser les générations futures sans la possibilité d'avoir recours à la fusion, donc ne pas leur laisser cette porte de sortie, à mon avis, serait prendre une responsabilité trop importante vis-à-vis des générations futures.
Alors, une précision pour un auditeur qui demande justement que vous nous en disiez un petit peu plus sur cette fusion qui ne serait pas sale. Il nous dit qu'il faudrait quand même nuancer vos propos. Ça me semble guère scientifique. Alors, effectivement, sur les déchets de la fusion, Sébastien Malibar, est-ce que vous avez quand même des...
De la fusion, oui.
Parce qu'on nous présente ça comme étant l'énergie propre, absolument propre. Alors, est-ce que la fusion...
Pas tout à fait. Comme toujours, il faut quand même toujours avoir un langage un peu nuancé, absolument propre. C'est quand même une machine qui produit une certaine radioactivité, mais beaucoup moins dangereuse sans doute que les déchets habituels des centrales nucléaires classiques.
Mais si on aura des problèmes de déchets aussi à gérer avec la fusion ?
Oui, mais dont la durée de vie est beaucoup moindre et qui donc...
Donc c'est une réalité, il y a quand même des déchets avec la fusion.
Ah oui, bien sûr, et puis il faut manipuler du tritium, qui est un isotope de l'hydrogène radioactif et qui est volatile, donc c'est un peu dangereux, mais... Disons que pour essayer d'être rationnel et le plus calme possible, je crois que ITER et la fusion, ce n'est pas dangereux, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est extrêmement difficile à faire fonctionner. Ça coûte très cher par rapport au budget de recherche habituel des pays, et je vous une remarque là-dessus, mais tout à l'heure peut-être. Et donc voilà quoi.
Vous nous disiez le problème, c'est l'urgence au fond, l'urgence alors, à laquelle nous sommes confrontés sur le réchauffement climatique. Mais est-ce qu'on pourrait pas au fond mettre au point les alternatives qui existent déjà aujourd'hui et parallèlement engager une recherche sur la fusion?
Mais parce que je le souhaite.
C'est quand même très intéressant.
Je le souhaite infiniment. Ça dépend qui paye. Si c'est de la recherche amont, très amont, payée par le secteur de l'industrie ou de l'énergie. Si c'est le ministère de l'Industrie, avec une aide substantielle des industriels du secteur, qui investit 15 milliards d'euros avec d'autres pays, bien sûr, ça ferait moins pour la France, pour une recherche qui a une chance, même faible, de déboucher dans 50, 100 ans, même peut-être davantage, je trouve ça très bien. Mais le problème, c'est que ce n'est pas comme ça qu'on est en train de financer ITER. On est en train de déshabiller la recherche publique, qui a quand même beaucoup moins d'argent que ces sommes-là, pour construire une machine dont l'avenir est quand même très incertain et qui, en tout cas, n'est pas celle dont on a absolument besoin tout de suite.
Donc, vous ne remettez pas en cause l'intérêt technologique de la fusion. Ça vous semble très intéressant,
oui.
Sauf qu'il y a des problèmes de budget. Donc là, on est vraiment dans la politique de recherche et de financement de cette recherche.
Oui.
Et puis dans les délais, hein, c'est ce que vous nous disiez.
Absolument.
Ça, c'est les deux points cruciaux. Sinon, a priori, si on pouvait mettre ça au point aujourd'hui, vous diriez, ben, formidable, allons-y, et on a trouvé la solution.
Je l'ai dit et je le répète, si la fusion pouvait marcher vite, ce serait formidable. Mais ce n'est pas le cas.
Un atome est un système qui n'obéit pas aux lois de la physique habituelle.
La tête.
Moi, quand on m'en fait trop, je ne correctionne plus. Je dynamite. Je disperse.
La tête au carré.
La tête au carré sur France Inter.
La fusion donc avec vous, Guy Laval et Sébastien Balibard, physicien Hervé Poirier donc pour Science et Vie. Alors puisque vous êtes physicien des plasmas, Guy Laval, vous allez quand même nous expliquer ce qui est au cœur d'ailleurs d'ITER, hein, c'est toute cette science autour du plasma, pour d'ailleurs répondre également à la question de Julia qui nous écrit de Paris. Comment faites-vous pour atteindre les températures nécessaires à la fusion nucléaire? On parlait de 150 millions de degrés tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est le plasma exactement?
Alors le plasma, c'est précisément l'état dans lequel se trouve toute matière quand elle est portée à des températures pareilles. Quand elle est portée à des températures pareilles, la matière se transforme parce que les forces de liaison qui maintiennent les électrons au voisinage des noyaux pour former l'atome, ces forces de liaison se brisent. Mmh. Et les électrons qui entourent donc le noyau se retrouvent libres, sans contrainte. Donc ils se baladent dans le milieu tout à fait librement, comme un gaz. Et de leur côté, les noyaux aussi vivent leur vie indépendamment des électrons. Donc, le milieu se trouve non pas composé d'atomes, mais d'un mélange d'ions et d'électrons, c'est-à-dire de noyaux et d'électrons. Or, ces particules sont des particules qui sont électriquement chargées, donc qui sont sensibles à des manipulations électromagnétiques. En particulier, si on leur impose des champs électriques, comme par exemple ceux des machines à micro-ondes. Hein. Les fours à micro-ondes ne font rien d'autre que générer des champs électriques qui vont induire des courants dans le poulet et qui vont le cuire. Et bien de la même façon, quand on veut chauffer le plasma, on lui impose des champs électriques oscillants comme dans un four micro-ondes et on injecte de l'énergie par cette méthode dans le système jusqu'à ce que la température atteigne les valeurs que nous voulons.
Voilà, donc
c'est une des méthodes.
Il faut atteindre ces températures-là pour que ça fonctionne. Hein.
Il faut atteindre des températures au minimum de 100 millions de degrés pour que les réactions de fusion nucléaire commencent à être suffisamment en nombre suffisant.
Sébastien Balibard.
Pour dire les choses juste un peu autrement, un plasma, c'est une grande flamme, quoi. C'est une flamme, en l'occurrence, très très chaude. C'est une flamme, c'est-à-dire la matière est ionisée. Mm-hmm. Il y a des charges électriques. Bon. Alors, vous pensez bien que la flamme d'un chalumeau qui fait 2 ou 3000 degrés, je ne sais pas, quelque chose comme ça, si ça touche un métal quelconque ou n'importe quelle matière ordinaire, c'est catastrophique. Donc, une flamme comme celle-là, qui fait 150 millions de degrés, il est hors de question qu'elle touche les parois de l'enceinte qui l'enferme. Et donc c'est pour ça qu'on met un champ magnétique pour faire tourner cette flamme au centre d'une espèce d'anneau, mais surtout pas toucher les bords.
Voilà. Le défi, c'est de stabiliser ce fameux
Alors,
plasma.
Alors, il y a un premier problème majeur qui est celui que va attaquer ITER, qui est comment être certain que cette flamme reste au centre et ne va pas toucher les bords.
Ouais.
Il y a un deuxième problème, c'est que dès que cette flamme va contenir des réactions de fusion nucléaire, donc le tritium et le deutérium vont fabriquer des petits noyaux d'hélium, mais éjecter des neutrons avec une énergie absolument phénoménale qui, elle, quitte le centre de cet anneau et va frapper violemment les parois de l'enceinte qui doivent maintenir un vide extrêmement poussé. Autrement, on ne peut pas atteindre des températures pareilles. Mmh. Et ces neutrons sont tellement énergétiques que, bon, disons pour caricaturer un peu, ils font bouillir l'acier, quoi.
Ouais,
bon.
Ouais, ouais. Et ça, donc, l'acier, ça, on maîtrise cette technologie ou pas aujourd'hui?
À mon avis, non. Peut-être que Guy Laval va dire le contraire. Et c'est ça que j'aurais préféré qu'on étudie d'abord avant de construire ITER. À supposer qu'on n'ait pas un budget infini, ce qui est malheureusement...
Mais ITER, si j'ai bien compris, ça sert aussi à étudier cette question en particulier, non?
C'est
pas ça le but d'ITER?
Pas vraiment.
C'est précisément essayer de stabiliser ce fameux plasma, non?
Stabiliser, oui, mais pas les problèmes de matériaux de l'enceinte.
Alors, ITER va permettre d'étudier les problèmes que pose la proximité entre un plasma à 150 millions de degrés et des parois métalliques qui, elles, sont à température ordinaire. Ça, ITER va très bien étudier. Par contre, ITER ne pourra pas étudier de manière efficace les problèmes de matériaux parce que ITER ne produira pas assez de neutrons. Pour pouvoir étudier les problèmes de matériaux, il faut avoir suffisamment de neutrons pour qu'ils cassent suffisamment de liaisons à l'intérieur du métal. Et pour ça, il faut avoir une source extrêmement intense qui fonctionne pendant très longtemps. Ce sera ce qui se passera dans les futurs réacteurs. Mais il faut construire le réacteur pour pouvoir pratiquement tester donc, les matériaux en question. Donc l'idée qui a été soumise est de construire un accélérateur de particules, tout à fait à côté d'ITER, qui n'a rien à voir avec la machine ITER, mais qui sera utilisé donc pour la fusion. Et cet accélérateur de particules va permettre de générer des quantités de neutrons en quantité suffisante pour pouvoir tester des échantillons des matériaux qu'on utilisera dans les futurs réacteurs et vérifier que ces matériaux tiennent le coup.
Donc Sébastien Badibar, il y a aussi un défi des matériaux à relever. Hein.
Oui.
C'est la résistance de ces matériaux face à cette température absolument inouïe.
Oui. Oui, enfin, il y a deux choses. Il y a la température inouïe, comme vous dites, de la flamme qui tourne. Et puis, il y a les produits de la réaction nucléaire à l'intérieur de cette flamme, qui sont ces neutrons qui sortent de la flamme de toute façon et qui vont heurter les parois. Et donc, c'est ce problème de résistance d'un acier, d'une enceinte, à un flux de neutrons extrêmement énergétique, qu'à mon avis, il est essentiel de résoudre si on veut que ça marche un jour. Parce que ITER va effectivement, si tout marche bien, au-delà de l'année 2000, enfin à la fin des années 2020, peut-être en 2030, je ne sais pas, fusionner effectivement de l'hydrogène, enfin de l'hélium, pendant quelques minutes.
Six minutes à peu près.
Et puis on va se dépêcher d'arrêter parce que ça irradie tellement tout autour qu'il ne faut pas continuer. Mais vous vous rendez bien compte qu'une centrale qui va produire de l'électricité, il faut qu'elle continue pendant 5 ans. Et donc, c'est ça qu'on ne sait pas faire. Alors, IFMIF est une machine internationale qui est en projet dans les cartons, pas encore vraiment commencé du tout, bon, qui va être construite au Japon.
C'est le Japon. Ce sera la suite d'ITER, en fait, c'est ça ?
Il faut espérer que ça va être en parallèle.
Parallèlement.
Ça coûte quand même 10 fois moins cher. Et moi, personnellement, encore une fois, ça dépend du budget dont on dispose, mais j'aurais commencé par là.
Oui. Sauf que le Japon ne peut pas exister sans ITER, a priori, Guy Laval. C'est ça, c'est la première étape d'une succession ensuite de construction pour arriver en un jour prochain, et on ne sait pas encore où, à créer une vraie centrale où on fabriquera de l'énergie grâce à la fusion.
Alors effectivement, le Japon, lui, a accepté donc d'entreprendre la construction, en tout cas actuellement les études nécessaires pour réaliser cet accélérateur parallèle. Mais les décisions ne sont pas encore complètement figées. Donc le problème essentiel des matériaux est en fait repoussé à plus tard. Alors tout de même, il faut dire que tout à l'heure vous disiez que ITER allait fonctionner 6 minutes avec du deutérium et du tritium pour fabriquer des neutrons. Ce n'est pas tout à fait vrai. ITER va brûler tout de même 20 kilos de tritium. ITER est destiné tout de même à fonctionner et à produire une quantité d'énergie totale qui va être impressionnante.
Mais on le trouve où, ce tritium, qui est une denrée rare sur Terre quand même?
Il n'existe pas sur Terre.
Ah, ça n'existe même pas, c'est dans l'atmosphère, c'est
ça? Non, puisqu'il est radioactif, donc il se désintègre. Donc il ne dure pas, son temps de vie est trop court pour qu'il puisse peupler l'atmosphère.
Où le trouve-t-on alors?
On le fabrique.
Actuellement, on le fabrique. Donc ça n'existe absolument pas?
Ça se fabrique pour l'instant au Canada dans des réacteurs qui s'appellent Candu et qui sont dédiés à la fabrication des bombes H. Parce que bon, il faut quand même dire les choses clairement, même si ça peut heurter certains auditeurs. Le tritium rentre dans la fabrication des bombes H. On parle toujours du soleil comme si c'était tellement agréable que c'était merveilleux, quoi. Bon, mais en fait, la fusion, elle est à l'œuvre dans les bombes H. Une fois de plus, ça ne veut pas dire que ITER est dangereux. Non, ce n'est pas les mêmes quantités. Bon. Mais pour l'instant, la seule chose qu'on sait faire, c'est produire du tritium pour les bombes H en petites quantités. Là, il s'agit d'inventer une filière industrielle de production massive de tritium afin que les futures centrales à fusion du siècle prochain soient alimentées en ce tritium.
Alors, et ça c'est facile à construire du tritium?
Non, c'est extrêmement... C'est la troisième énorme difficulté de ce projet.
Ça en fait beaucoup quand même.
Construire ça. Il faut inventé la méthode pour faire ça. Donc, on a des pistes, des hypothèses, quelque chose, mais rien pour l'instant.
Guy Laval, plus, quoi. Pour répondre à la difficulté tritium.
Alors, je corrige quelques petites choses. Le tritium qui va être utilisé donc dans ITER, c'est du tritium qui est fabriqué dans des centrales nucléaires à but pacifique, qui utilisent comme fluide modérateur, bon, qui ralentit les neutrons, qui utilisent de l'eau lourde, cette eau lourde étant moins absorbante pour les neutrons que l'eau ordinaire. Donc c'est pour que la centrale fonctionne mieux qu'on utilise de l'eau lourde. Et évidemment, à partir de l'eau lourde, il se forme un peu de tritium qu'on récupère comme un déchet. Et c'est ça que ITER va utiliser.
Alors, je vous transmets les courriels des auditeurs parce qu'il nous reste 2 minutes. Josie nous dit ceci, j'habite tout près du centre de Cadarache. On a beau nous dire qu'il n'y aura aucune pollution environnementale, nous ne sommes pas rassurés, d'autant que bon nombre d'ingénieurs mettent en garde contre la radioactivité du sol. Et que dire de la destruction d'une superbe colline? Et puis, nous sommes sur une zone sismique. Alors, que se passera-t-il en cas de secousse? On a étudié la probabilité, Sébastien Balibar?
Oui, bon, tous les grands travaux font du mal à l'environnement. Hein. Bon,
la question sismique.
La question sismique, si j'ai bien compris, ça fait partie des raisons qui ont augmenté le coût de construction. Bon, mais je n'en sais pas davantage.
Anne nous dit ceci, pourquoi dépenser des milliards sur une technologie que l'on ne connaît pas et complètement aléatoire, plutôt que de dépenser ces mêmes milliards sur des technologies connues, dont on sait qu'elles sont sans danger, le renouvelable, qui a besoin d'amélioration pour être plus performant. Ça rejoint la thèse que vous défendez, Sébastien Balibar.
Oui, d'ailleurs, si je peux être encore plus clair, si on pouvait encore arrêter ITER, ce qui ne fera pas plaisir à des gens, évidemment... Mais moi, je préférerais qu'on crée à Cadarache un immense centre de recherche sur l'énergie solaire qui consisterait à optimiser les panneaux photovoltaïques, à inventer des batteries beaucoup plus performantes, à inventer des matériaux pour le bâtiment qui permettent de récupérer et d'isoler les bâtiments en question. Et là, ça créerait beaucoup plus d'emplois et ça créerait beaucoup moins de polémiques et ça pourrait servir très vite.
Voilà, donc ça rejoint effectivement cet avis que vous partagez avec Georges Charpak, entre autres, sur ce gouffre inutile qui est selon vous ITER.
Oui, inutile. Je dois dire quand même que la Libération aime les titres ronflants, donc le titre n'est pas de moi, ni de Georges Charpak. Non,
ça ne correspond pas tout à fait à votre pensée.
Ma pensée est plus nuancée que celle-là, bon. Et hors de prix, j'ai dit que ça dépend à quoi on compare.
Ouais. Guy Laval, on a compris également que vous étiez tout à fait intéressé pour la poursuite des recherches autour donc de la fusion. L'énergie bleue, histoire de la fusion nucléaire, c'est le livre que vous signez chez Odile Jacob. Et Sébastien Balibar, La pomme et l'atome, 12 histoires de physique contemporaine. Et puis bien sûr, le numéro de Sciences et Vie avec cette nouvelle formule qui vient de paraître, consacrée à la fusion. Merci Hervé Poirier également d'être venu nous parler de ce nouveau numéro. Merci à tous les deux et au message des auditeurs. Dans un instant, la chronique de Santé solidaire avec Luc Biec.
Je connais qu'un seul endroit, mais c'est pas fréquentable, où on joue ce blues-là, aussi noir que le sable. Je connais qu'une seule voix, qu'on est vraiment capable, c'est profond, plus fort que toi, il n'est pas responsable. C'est le blues d'Angola, mineur et solitaire, qui nous vient de Luanda. C'est un chant de poussière. Fallait partir, laisser là tes rêves et cette guerre, et l'or noir que tu n'as pas, pour tous ces mercenaires qui ont du sang sur les mains, jusqu'au bout de l'enfer. Cours plus vite, ne dis rien, sous cette pluie de fer. Tu n'en parles jamais, toi mon ami, mon frère. Qui as-tu perdu là-bas, couché dans la poussière?
Mon amour, mon amour. seya weza mona mona mwenye we.
Je veux du sang pour 20 carats, des diamants, des rivières, pétroliers du Panama. Vos dollars m'exaspèrent. C'est le blues d'Angola, mineur et solitaire, qui nous vient de Luanda. C'est un champ de poussière.
Bernard Lavilliers, Banga avec Angola sur France Inter.
La tête.
Du point de vue cardiovasculaire, le malade est parfait. Du point de vue cérébral, il nous donne des soucis.
Aucune importance, ça ne nous gêne pas du tout.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter.
Féminisme et accès aux soins, c'est le thème de votre chronique de santé solidaire, Luc Biec, aujourd'hui.
Oui Mathieu, la journée des femmes c'est demain, ce sera la 101e édition. Certaines entreprises veulent transformer ça en une foire commerciale. J'ai même reçu un communiqué de presse d'une marque de sextoy qui entend profiter du 8 mars pour lancer une déclaration du droit au plaisir.
Eh ben voyons.
C'est juste une excuse pour présenter un lubrifiant au goût crème brûlée. Ah. Ce serait drôle si ça ne cachait pas des faits plus tristes. Notre pays n'a plus de ministre des droits des femmes et aucun site internet officiel n'est dédié à cette journée. Or, l'accès à la santé n'est vraiment pas le même quand on est une femme ou un homme.
Alors justement, en quoi le genre peut exposer à des problèmes de santé différents ?
Notre genre de naissance nous expose à différents traitements dans un tas de domaines. Au niveau de la santé, c'est très visible. Premier chiffre choc, dans le monde, 13 millions de jeunes filles vivent chaque année une grossesse trop précoce et 50 000 d'entre elles en meurent. Avoir un enfant quand on est une ado, c'est subir des complications médicales lourdes comme des fistules, des infections. Et chez l'adolescente, le risque de décès dû à la grossesse est quand même multiplié par 5.
Est-ce que c'est le cas également en France ?
Oui, c'est aussi le cas, avec sans doute un peu moins de décès. Mais on a quand même 10 000 grossesses qui concernent des adolescentes en France et 6 700 qui choisissent d'avoir recours à une IVG. Il semble que ces jeunes filles soient face à un véritable déficit d'information. Le 18 juillet 2011, le planning familial avait interpellé le Premier ministre pour demander que les lois sur l'éducation sexuelle et l'interruption volontaire de grossesse soient appliquées. La loi du 4 juillet 2001 rend obligatoire l'information et l'éducation sur la sexualité dans les écoles, du primaire au secondaire, et hélas, ça n'est pas du tout appliqué.
Et en 2011, est-ce que les femmes sont plus exposées à des risques pour leur santé ?
Oui, d'un côté, on a une médecine de pointe qui fait vraiment des exploits. Et de l'autre, on a une planète où l'accès à la santé sexuelle et reproductive reste un problème majeur. Une femme meurt chaque minute lors d'un accouchement. L'accès aux soins obstétriques qui pourraient leur sauver la vie n'est vraiment pas accessible partout. Dans le milieu du travail, il n'y a pas que les salaires qui divergent. En France, la fréquence des maladies professionnelles est 57 fois plus importante chez les ouvrières que chez les femmes cadres.
Et le trouble musculo-squelettique également, assez courant,
c'est oui, ça ? Ils sont particulièrement courants dans des secteurs très féminisés, comme l'industrie du textile, le cuir et l'habillement.
Est-ce qu'elles sont aussi plus touchées par le sida et le cancer du sein, Luc ?
Le sida, c'est particulièrement net, puisqu'en Afrique, le taux d'infection par le VIH parmi les femmes est supérieur à celui des hommes. Leur vulnérabilité face au sida s'explique par des facteurs biologiques, mais aussi par des facteurs culturels, où on retrouve le manque de connaissances. En plus, les traitements qui sont prescrits dans le VIH, comme dans la plupart des pathologies, sont essentiellement testés sur des hommes. Ça, on le sait peu et on le dit particulièrement peu. Il y a aussi le cancer du sein. Et aujourd'hui, 5 femmes ont décidé de créer un flash blog. Un flash blog, c'est un blog qui est online pendant une journée.
Ah ouais.
Elle rappelle qu'une femme dans le monde meurt chaque minute d'un cancer du sein. Et ce qu'elle réclame, c'est quelque chose de tout simple. C'est d'abord plus de transparence. Parce que la seule chose qu'on sait de ce cancer, c'est qu'il touche à 99% des femmes. Elle réclame aussi des infos fiables sur les produits potentiellement dangereux. Ainsi qu'un meilleur dépistage, parce que selon elle, le dépistage n'est pas très bien fait et que ce cancer n'atteint pas seulement des femmes blanches occidentales de 50 à 74 ans, mais toutes les femmes. Donc je vous invite à lire leur blog, il est donné sur le site de La Tête au Carré. Il est vraiment très bien fait, très humain et
en
très
espérant
accessible.
Qu'elle le laisse un peu plus longtemps, pourquoi pas,
oui,
que ça dépasse simplement le flash.
On va leur demander que grâce à France Inter, elle le laisse online quelques jours et j'espère qu'elles vont nous entendre.
Donc le lien est sur le site de La Tête au Carré. Merci Luc Biec, on se retrouve lundi prochain. Bonne semaine à vous en attendant.